médiocrité. Frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiocrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiocrité.
En liberté. Une émission pour déménager la biologie. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Eh oui, bonjour à vous, car voilà une rentrée bien étrange sur 89.4 Radio Libertaire dans cette nouvelle émission de Science en Liberté, un parfum de septembre et d'octobre qui sent bon pour la rentrée des universités. En tout cas, après avoir jeté notre dévolu sur les mille et une façons de s'aimer et de se plaire entre animaux et dans l'évolution, après nous être roulés dans la fange libertine et évolutive des amours animales pluriels et interdits, aujourd'hui nous parlons de ce qui se fait sans le sexe. Pas de sexe, oui, vous avez bien entendu. Pas de sexe du tout. Il ne s'agit pas d'une imprécation puritaine ni d'un commandement sectaire, bien entendu. Il s'agit de ces animaux qui se reproduisent sans user de cet artifice, ma foi bien intéressant, que l'on nomme habituellement la sexualité. Comment donc, au cours de l'évolution, se serait mise en place cette innovation incroyable, si riche et même si coûteuse, l'activité sexuelle, déclenchant la convoitise, le désir, entraînant des serments infinis et des jalousies terribles, des scènes d'amour si puissantes que la quasi-totalité de notre littérature s'y consacre. Et voilà que des animaux vivraient, se reproduiraient sans le sexe. Il faut alors croire que ces attardés d'évolution soient ou bien très primitifs, ou bien très pudibonds, pour ne pas utiliser ce que nous tous trouvons en général indispensable à notre vie émotionnelle et aventureuse, le sexe. Car oui, bon sang de bonsoir, 95% des animaux usent et abusent du sexe. Alors pourquoi pas eux? Pourquoi vivre sans sexe? Mais d'ailleurs, vivre sans sexe, c'est possible? À quelles conditions se reproduire alors? Et pourquoi donc négliger les atouts d'Eros et de Vénus quand on appartient au règne animal ? Comme d'habitude dans cette émission critique, nous allons voir qu'en posant les questions un tout petit peu autrement, une autre explication évolutive va se dessiner et que cette explication va être tout à fait fascinante. Voilà soudain que le sexe, au lieu de constituer l'essence de notre bestialité, ne serait finalement pas aussi indispensable qu'on le croit à la reproduction. Ben alors, que devient la petite graine que papa ne donne plus à maman, comme diraient les cathos ? Comment est-il possible que des animaux se reproduisent sans activité sexuelle ? Nous allons aujourd'hui parler de ce qui évite cet affairement coupable pour rendre raison à la pudeur la plus extrême. Bref, ces animaux qui ne font pas de sexe.
Bonjour à vous, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Je suis Siona et je vais vous présenter avec Thierry l'émission « Pas de sexe, mais si si ». Et là, nous avons écouté The Absinthe, Adriano Rasso et sa fanfare. Vous m'excuserez pour l'accent, Chocorilla des villes telles. Donc, Thierry, il existerait des animaux qui ne pratiquent pas le sexe.
Eh oui, Siona, Science en liberté est une émission critique. Et nous allons voir qu'en posant la question un tout petit peu autrement, nous allons découvrir des choses bien étonnantes. Car ceux qui n'utilisent pas la reproduction sexuée réussissent pourtant très bien à s'en passer. Et ils vont même nous raconter que le sexe est quelque chose de bien différent de ce qu'on croyait. Donc, loin de fonder notre bestialité, le sexe serait quelque chose de beaucoup plus moderne. En fait, on a souvent présenté le sexe comme une acquisition évolutive absolument indispensable à la diversité. Et évidemment, le sexe est apparu comme quelque chose qui va promouvoir, en règle générale, ce qu'on appelle être la diversité génétique. Alors qu'au contraire, la reproduction qui serait sans sexe, une reproduction de type clonal, aurait comme gros désavantage, évidemment, de ne pas reproduire la diversité, de ne pas construire de la diversité.
En fait, de faire 1 égale 1.
Alors qu'avec le sexe, en effet, 1 plus 1, enfin 1 plus 2 égale 3. Quoi. C'est à chaque fois, l'individu qui naît est différent. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de preuves, et c'est encore terriblement débattu, pour comprendre en quoi la variation pourrait être un avantage évolutif. Donc il y a eu beaucoup de théories qui ont essayé de travailler sur ça, et elles sont toutes basées sur un élément important du sexe, à savoir la recombinaison génétique. Alors la recombinaison génétique, c'est relativement simple, on le voit bien avec, par exemple, les chromosomes XY. Si la femelle apporte un X et le mâle un Y, eh bien ça va donner un mâle. Si la femelle apporte un X et que le mâle apporte un X, eh bien ça va donner une femelle. C'est cette recombinaison génétique, bon là je la présente de manière relativement sommaire, hein. C'est plus compliqué que ça évidemment, tous les gènes vont se mélanger les uns avec les autres pour fabriquer à partir d'un parent mâle et d'un parent femelle un individu tout à fait nouveau, tout à fait différent, un individu absolument unique. Alors le problème c'est que cette recombinaison nous est toujours présentée comme étant la chose la plus essentielle de la sexualité. En fait, la recombinaison est déjà très partielle chez les bactéries, et les bactéries ne savent pas tellement comment faire de la recombinaison. Elles mangent des fois l'ADN d'une autre bactérie morte, par exemple, ou encore elles sont capables de récupérer de l'ADN à travers une petite transmission d'un petit morceau qui se balade d'un côté à l'autre. Donc si la recombinaison était essentielle, déjà, c'est clair que les bactéries n'en font presque pas, et pourtant, les bactéries sont très très loin d'être incapables de survivre sur la planète. Donc ça veut dire que le sexe n'est pas aussi indispensable qu'on pourrait le croire. Mais voilà, le sexe ce n'est pas que ça. Le sexe c'est aussi deux autres éléments très importants, notamment ce que vous savez tous, c'est-à-dire la syngamie, c'est la fusion du noyau des cellules pour former en fait la cellule finale qui va commencer son embryon, c'est le spermatozoïde qui va fusionner avec l'ovule et favoriser donc l'embryogenèse. Et puis aussi, la méiose réductionnelle. Alors, la méiose réductionnelle, c'est le fait qu'on va fabriquer des cellules qui vont avoir que la moitié de nos chromosomes, on va réduire, et ce mécanisme qui fabrique des cellules avec la moitié de chromosomes, ça s'appelle la méiose, c'est quelque chose de très ancien qui pourrait dériver, par exemple, d'une réparation de l'ADN. Évidemment, à partir de ces éléments-là, on pourrait donc en déduire que le sexe est quelque chose d'extraordinairement ancien. Voire même qui n'est pas prêt de se présenter comme tel.
Ah oui, effectivement, c'est étonnant. Là, on peut dire que finalement, comment ça se fait dans ces cas-là qu'il n'y ait pas de sexe, si c'est très ancien ?
Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut bien se rappeler que la recombinaison, c'est un processus chimique qui participe à l'échange de l'ADN et qui est apparu probablement il y a très longtemps. Il dérive d'une mécanisme de réparation de l'ADN, exactement comme la méiose réductionnelle. Et toutes ces caractéristiques, en fait, sont absentes, en général, dans la reproduction sexuée. On sait que la reproduction sexuée, c'est 95% des espèces de caryotes, des espèces d'animaux, de végétaux, de champignons, etc. Et donc, le non-sexe va concerner que 5%. On peut donc dire que c'est négligeable. Mais en même temps, ça a beau être négligeable, voilà bien des espèces qui ne pratiquent pas de sexe. Et en même temps, on n'a pas non plus de moyens de savoir quels sont les intermédiaires entre ces organismes qui ne pratiquent pas de sexe et ceux qui en pratiquent de nos jours. On sait par exemple que les bactéries ne pratiquent pas d'échange de recombinaison, ou très peu, mais en même temps, on n'a pas vraiment, pour l'instant, d'éléments majeurs qui nous permettent de faire la transition entre les bactéries et les autres animaux. Bon, évidemment, tout ce mécanisme-là vont s'ajouter d'autres éléments. Et en plus, on a par exemple chez les eucaryotes un autre procédé qui est l'anisogamie et qui en fait introduit l'existence de mâles d'un côté et de femelles d'autre.
Ne faisons pas trop peur. L'anisogamie, pour l'auditeur averti, mais...
Ça veut dire que les mâles ne sont pas comme les femelles.
Ah, isogamie, ça c'est clair.
Isogamie chez les végétaux qui ont les mêmes gamètes, qui vont produire les mêmes cellules sexuelles. Anisogamie, quand on va produire d'un côté des spermatozoïdes et de l'autre des ovules. Alors,
fait.
On a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cas de sexualité, qu'il pouvait y avoir plusieurs sexes. Mais dans le monde évolutif, il n'y a que deux sexes. Un sexe qui est fécondé, les femelles, et un sexe qui est fécondant, les mâles. Et les cellules qui vont permettre ça, ce sont des cellules anisogames. D'un côté, les spermatozoïdes, de l'autre, les eucaryotes.
Alors, s'il n'y a plus de mâles et de femelles, comment font-ils du sexe ?
Eh bien donc, ils ne font pas de sexe, précisément.
Ah.
Le problème est ici très important. En fait, les reproductions dites asexuées sont principalement de deux types. On va simplifier un petit peu pour les auditeurs. Le premier type, c'est la sissiparité. Alors, la sissiparité, c'est...
Alors, attends, c'est pas des petits bouts de morceaux ?
C'est ça, c'est le fait de se couper en petits morceaux, et le petit morceau devient, à nouveau, un petit moi. Hein, on fait des mini-mois, et ces mini-mois vont fabriquer.
C'est quoi ? Enfin, ça, alors, quelles espèces font ce
C'est le cas chez les vers, notamment, mais chez beaucoup d'espèces.
Ouais,
ça peut être le cas chez beaucoup, beaucoup d'espèces plus ou moins primitives, mais c'est pas forcément des espèces très primitives qui sont capables de faire ça. Par exemple, les vers polychètes, qui sont des espèces relativement récentes, hein, juste à côté des... assez proches des insectes, eh bien, ce sont des animaux capables de faire cette sissiparité. Ils se coupent en plusieurs morceaux, des fois c'est en 2, des fois c'est en 20, et chacun des morceaux redevient un individu nouveau. Et puis l'autre méthode qui a été beaucoup plus étudiée, c'est la parthénogenèse.
Ah, ça c'est... Vous savez ce que c'est ?
Alors ça vient de parthénos, les vierges, et la genèse, la reproduction. Donc mot à mot, ça veut dire la reproduction des vierges. Et la reproduction des vierges, c'est tout simplement quand les femelles sont capables de fabriquer des ovules qui vont s'embryonner tout seuls, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fécondation. Mais sans fécondation, l'ovule ne va pas être avec la moitié du patrimoine génétique, mais il va ne pas connaître la fameuse méiose réductionnelle, il va garder l'intégralité de son patrimoine génétique, et là... il va se déclencher lui-même sa propre embryogenèse pour devenir un individu nouveau. Ce sont donc là des femelles qui font des bébés sans papa.
Il n'y a pas besoin de mâle alors.
Et voilà, dans cette occurrence particulière, en effet, les mâles ne sont plus utiles. Il n'y a donc plus de sexe reconnu en tant que tel.
Avis à la population! Au pays de l'empereur, tomate ketchup, les enfants sont rois et ils font la loi. Tour nicotine, tour nicoton, c'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné, l'état de l'enfant roi est partout proclamé. La peinture guidage pour le sourire en général et la démission.
C'était donc les Berruriers Noirs, Empereur Tomato Ketchup. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité. Et dans une émission qui dit non au sexe, science en liberté. Alors maintenant Thierry, tu vas nous récapituler les choses. Il n'y a donc pas que les bactéries qui ne font pas de sexe.
Et non, en effet, bien que 95% des espèces font du sexe, il y en a qui n'en font pas. Alors, comme tu me poses la question, je vais te dire qui ils sont. D'abord, il y a donc les rotifères. Les rotifères, c'est un groupe entier d'animaux très, très bizarre, puisque ce sont des animaux qui ont plusieurs cellules, mais qui ont à peu près la taille d'une petite paramécie. Ils vivent dans une goutte d'eau, ces animaux-là. Et on les appelle rotifères parce qu'ils ont un organe absolument étonnant qui s'appelle le mastax, et qui est un organe rotatif, c'est-à-dire un organe qui tourne, parce qu'il digère en fait des algues et tout un ensemble d'autres petits éléments de ce genre. Donc ce sont des tout petits animaux. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Plusieurs cellules, petits animaux qui vivent dans de l'eau. Mais voilà, il n'y a pas de mâle chez la plupart des rotifères, et notamment dans le groupe des rotifères bdelloïdes. Sans mâle, évidemment, c'est très compliqué de penser que ces animaux vont se reproduire de manière sexuée. Au contraire, il y a d'autres espèces qui ne font pas de sexe. Ce sont aussi les abeilles. Ou plus exactement, quand les abeilles font des mâles, elles font des mâles sans qu'il y ait le moindre sexe. Puisque c'est une méthode tout à fait particulière qu'ont les abeilles. Elles font en règle générale, elles recueillent en règle générale du sperme les reines, à un moment donné avec des mâles, après s'être reproduit avec les faux bourdons. Et avec ce sperme, elles vont produire les ouvrières. Et puis quand il n'y aura plus de sperme, eh bien la reine va produire les mâles, les faux bourdons. Les mâles sont donc issus de cellules qui ne sont pas fécondées. Autant dire que les mâles ont le même patrimoine génétique que la reine, puisqu'ils ont même que la moitié de ce patrimoine génétique, puisqu'ils ne sont pas fécondés. Enfin, il y a d'autres espèces qui peuvent aussi ne pas faire de sexe. Par exemple, les anémones de mer. On a parlé aussi des vers polychètes qui peuvent se couper en petits morceaux. Et donc, à chaque fois, on voit que l'une ou l'autre, voire les trois caractéristiques de la sexualité sont absentes. Il n'y a pas de recombinaison, il n'y a pas de syngamie, et il n'y a pas toujours de réduction méiotique. Alors, chez les abeilles, on l'a vu, comme il y a de la reproduction sexuée à côté de la reproduction non sexuée, il y a par contre de la méiose. Mais dans le cas de la production des mâles, les mâles vont être ici haploïdes, c'est-à-dire qu'ils n'auront que la moitié de leur patrimoine génétique. On peut donc dire que ces animaux n'ont pas de sexe et que ça marche un peu comme le mécanisme de la cicatrisation, par exemple, qui fait proliférer des cellules totipotentes, c'est-à-dire des cellules qui vont être capables de produire différents organes. Alors c'est ça qui est évidemment très très étonnant, c'est cette capacité à produire des tissus très différents.
Donc, quels avantages cela peut tirer ? Enfin, c'est vrai que c'est étonnant.
Alors évidemment, pour comprendre à quoi ça peut servir de produire comme ça des individus qui n'ont pas de sexe et de capable de produire tout de même des individus vivants, c'est bien qu'il y a un avantage. Ça serait assez étonnant de voir des animaux qui survivent dans l'évolution depuis des millions d'années et qui utiliseraient pour cela des méthodes de reproduction qui ne seraient pas efficaces. Alors évidemment, on voit bien avec cette méthode que la reproduction peut être ici différente du sexe. Par exemple, chez les abeilles dont on a parlé, chez d'ailleurs tous les hyménoptères dissociaux, les fourmis, etc., eh bien, on a des individus qui vont pratiquer du sexe, mais qui ne vont pas tout le temps l'utiliser. Chez les pucerons, c'est un peu la même chose. Ce sont les aphidés. Chez les aphidés, on a affaire à des animaux qui vont pratiquer généralement de la parthénogenèse, c'est-à-dire que les femelles vont donner naissance à des petits sans qu'il y ait de fécondation avec un mâle, elles sont capables de se reproduire toutes seules comme des grandes, et puis pourtant il y a un moment donné où elles vont pratiquer de la sexualité. Donc il y a une alternance de générations sexuées et de générations non sexuées. Ça se retrouve chez quelques espèces. Alors, tout ça, c'est pas non plus très très important hein, dans le monde animal ou dans le monde végétal. Ça représente 5 à 6% des espèces. On retrouve ça aussi chez les végétaux gymnophores. On retrouve tout un ensemble d'éléments particuliers de ce genre qui viennent évidemment nous compliquer la compréhension. En règle générale, quand les animaux sont haploïdes, comme chez les hyménoptères sociaux, les abeilles ou les fourmis, ils vont devenir mâles par défaut. En quelque sorte, le mâle, il est produit parce qu'il manque un chromosome.
Généralement, chez les autres espèces, le mâle est produit parce qu'il y a un chromosome de plus. Par exemple, chez l'espèce humaine ou chez beaucoup de mammifères, c'est la présence, ou même chez beaucoup de poissons, c'est la présence d'un chromosome supplémentaire qu'on appelle le chromosome Y qui fait des mâles. Chez les oiseaux et chez de nombreux reptiles, c'est l'inverse. Quand il y a un X, on est généralement femelle, avec l'acte de jonction d'un petit chromosome supplémentaire qu'on appelle ZW, excusez-moi. Le chromosome est devenu un W, et quand il y a deux W, en fait, ce sont des mâles qui sont produits. Alors, c'est assez étrange, évidemment, de voir ces processus différer, mais globalement, les espèces sont plutôt fondamentalement femelles, et c'est quelques petites choses qui vont se rajouter en plus pour en fabriquer des mâles. Donc, on pourrait penser que le fait de ne pas avoir de sexe, eh bien, c'est un mécanisme absolument archaïque. Mais en fait, on va voir que si on essaie d'analyser les raisons pour lesquelles la reproduction non sexuée est maintenue chez tous ces différents groupes, eh bien, on va comprendre que c'est une énigme qui va nous donner d'autres réponses sur ce qu'est le sexe. D'abord, il faut comprendre que la plupart des espèces qui n'ont pas de sexe vont connaître ce qu'on appelle un coût particulier de cette reproduction sans sexe. Le coût particulier de cette reproduction, c'est théoriquement l'existence de mutagènes, l'existence de mutations qui viennent, en quelque sorte, empêcher les individus de pouvoir se sortir d'une mauvaise situation. Comme ce sont des clones, les individus sont tous semblables, il suffit évidemment qu'une simple mauvaise mutation apparaisse pour que tous les individus finissent par la posséder. Et donc ces individus posséderont une mauvaise capacité. Et puis, à contrario, on peut penser que le sexe, lui, va servir à enlever ces mutations. Au contraire, il y a aussi chez les espèces clonales, chez ces espèces qui se reproduisent sans sexe, le fait que tous les individus se ressemblent et sont les mêmes. Donc là, on peut présupposer que si le milieu n'est pas adapté à ce génome qui va se multiplier en étant toujours identique, eh bien du coup, les espèces pourraient disparaître. C'est là qu'interviendrait le sexe pour fabriquer de la diversité. Mais on le voit, ces deux explications sont un tout petit peu contradictoires. Parce que d'une part, on est en train de dire que le sexe élimine les mutations, donc les variations.
Donc les variations, la diversité.
Voilà, la diversité à l'intérieur du génome. Et d'autre part, on est en train de dire que le sexe permet aussi de maintenir cette diversité, que le sexe permettrait de valoriser cette diversité à travers la recombinaison. Donc on voit qu'on est un peu en train de dire une chose et son contraire, et en fait, beaucoup de publications scientifiques se battent sur cette hypothèse générale qui est de dire il y a de la diversité, bref, c'est un très très gros avantage. Or, au bout du compte, on est un petit peu dans l'expectative pour comprendre quels sont réellement les avantages de lignées qui n'auraient pas de sexe. Et comment, notamment, ces lignées peuvent finir par envahir l'environnement, c'est-à-dire finalement exister et résister à l'évolution.
Fats Waller, The Minor Drag, une musique qui swing. Donc nous allons revenir au sujet principal de
notre émission d'aujourd'hui.
Alors, quels sont les avantages de ne pas avoir de sexe ?
Voilà, quels sont les avantages supposés de se reproduire sans sexe ? Voilà, 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 qui plairait sans doute à certaines sectes bizarroïdes, mais en effet, des espèces se reproduisent sans sexe. Alors, on a parlé en premier de cette hypothèse charmante qui a été développée par Müller et qu'on appelle le Müller Ratchet, c'est-à-dire en fait l'idée qu'on va supprimer des mutations délétères. Les animaux qui sont sans sexe, qui se reproduisent en formant toujours les mêmes individus par reproduction dite clonale, sont susceptibles d'accumuler des mauvaises mutations qui apparaîtraient par hasard. Le sexe, d'après Müller, permettrait d'éliminer ces mutations. Ça permettrait en quelque sorte de les évacuer au fur et à mesure. Alors, tout un ensemble d'autres auteurs qui ont développé des théories un petit peu analogues, et il est évident que une partie des hypothèses qui ont été testées par les scientifiques reposait sur cette manière de vérifier que la diversité permettrait d'avoir moins de mutations que d'autres. Alors là, les tests qui ont été évalués ont montré qu'en effet, de temps en temps, ça marchait, de temps en temps, ça marchait pas. Mais c'est pas très grave, le mécanisme existe bien. Lui, il permet, en effet, grâce à la sexualité, d'éliminer des mutations défavorables. Mais ne l'oublions pas, comme on l'a dit tout à l'heure, ça élimine aussi les mutations favorables. Ça veut dire qu'avec la recombinaison génétique, quand on fait du sexe, eh bien, on redistribue toutes les cartes. Alors imaginez maintenant, on a mis des générations à s'adapter à un environnement. On est parfaitement adapté, par exemple, à être dans un bar avec sa bière, voilà. Et voilà que d'un seul coup, on fait de la sexualité, ben nos descendants ne seront plus du tout adaptés au même environnement. Ils ne pourront plus aller dans le même bar et boire la même bière. Donc la sexualité n'est pas qu'un avantage. Elle détruit les recombinaisons génétiques. Ou alors, il faut qu'il y ait un gros avantage à la fameuse recombinaison génétique. Et c'est là que se cache Alice. Alice, de l'autre côté du miroir.
Oh, quelle histoire tu nous racontes là, Lewis Carroll ?
Lewis Carroll avec la Reine Rouge. En effet, Van Valen, en 1973, ce chercheur a développé une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de la Reine Rouge, The Red Queen. Cette hypothèse a été reprise dans différents modèles mathématiques, etc., pour essayer de montrer que le sexe offrait finalement un bénéfice immédiat. Ce bénéfice immédiat, c'est le bénéfice de la recombinaison. En mélangeant les gènes de différents individus, il en résulte évidemment un descendant qui est différent. De deux, on en fait un troisième. Et ça, ça peut être efficace si il s'agit d'une réponse à des pathogènes. Alors, en gros, Van Valen et surtout ceux qui ont pris sa suite, Hamilton, etc., ont imaginé le monde un peu comme ça. On a d'un côté plein de pathogènes, des maladies, notamment les fameuses bactéries qui ne pratiquent pas de sexe, mais pas qu'elles. Et tous ces pathogènes nous empoisonnent la vie. Une seule solution pour aller plus vite que les pathogènes, il faut qu'on produise des individus qui seront différents. Un pathogène va réduire à néant des individus qui seraient à reproduction clonale, puisqu'ils se reproduiraient toujours de la même manière, alors que le même pathogène n'ira pas plus vite, il ne pourra pas détruire des individus qui sont au contraire très différents. C'est un peu ce qu'on voit par exemple avec la grippe, qu'on va peut-être connaître cet hiver. La grippe mute quasiment tous les hivers, ce qui fait qu'elle est le virus se présente toujours de manière différente. En face, évidemment, nous, on ne va pas aussi vite à avoir des descendants. Et par conséquent, la vitesse requise pour essayer d'avoir une résistance à ce nouveau virus est trop lente avec notre système de reproduction sexuée. Là, on imagine le contraire, c'est-à-dire qu'avec le système sexué, ça irait aussi vite que les pathogènes et ça permettrait évidemment d'éviter les maladies. Alors, vous voyez, en quelque sorte, j'ai déjà donné un petit peu la réponse. C'est clair que la reproduction sexuée, ça peut être quand même très lent. Pensez aux éléphants, pensez aux baleines qui se reproduisent en prenant des années et des années pour faire un descendant, ou même à l'humain, qui ne peut, ma foi, pas tellement se reproduire plus qu'une fois tous les deux ans ou tous les ans et demi à peu près. Et encore qu'au moment où il est adulte. On voit que la réponse est quand même, on va dire, qu'elle a un certain délai et que ce délai de réponse immunitaire n'est pas forcément si favorable qu'on peut le penser à la reproduction sexuée. En revanche, si on regarde nos fameux pucerons, qui, eux, alternent des générations sexuées et des générations non sexuées, on s'aperçoit qu'en effet, à leur vitesse, à eux, ça peut être un avantage. Car en allant avec des reproductions clonales en parthénogenèse, ils vont faire des petits très vite qui vont pouvoir coloniser un milieu. Et puis après, ils font de la reproduction sexuée quand les milieux deviennent défavorables, moins intéressants, l'hiver par exemple, pour produire des individus qui vont être capables de résister et de revenir au printemps sous une forme beaucoup plus compétente. Donc l'alternance de reproduction sexuée et non sexuée pourrait être un avantage. Oui, mais on ne comprend toujours pas pourquoi, dans ces cas-là, des espèces animales ou des espèces végétales ont décidé de se passer totalement du sexe. À la limite, il aurait suffi d'en garder un petit peu pour que les choses se viennent bien. Alors, reprenons où on en est. Les premières hypothèses qu'on a faites, c'est que le sexe pouvait provenir d'individus très anciens. C'est pas vrai. On a des individus non sexués qui sont aussi bien dans des groupes anciens que pas anciens. On aurait pu supposer que le sexe était une innovation évolutive très récente. Et donc, du coup, on s'aperçoit également que ça ne fonctionne pas non plus, puisqu'il y a des individus archaïques qui vont produire du sexe et des individus très récents qui se reproduisent aussi avec du sexe. Tout ça, ça a l'air très partagé. Le deuxième élément qu'on a dit, c'est que finalement, le sexe pouvait être un avantage par rapport au fait de ne pas se reproduire avec du sexe. Mais on s'aperçoit que les animaux et les plantes qui vivent sans sexe, finalement, se débrouillent pas si mal que ça. Serait-ce donc qu'il existe des éléments partagés, des bénéfices discrets, quelque chose que nous ne verrions pas immédiatement et qui pourtant existerait dans la reproduction non sexuée? Quels sont donc ces avantages cachés? vous aviez reconnu La rue qui est à nous, Les hommes que j'aime. Alors c'est un peu parti un petit peu fort, évidemment, puisque c'est une musique très dynamique qui nous a bien intéressés.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission faite pour se demander ce qu'on fout sur Terre, bordel.
Alors, pour revenir maintenant à notre sujet, on poursuit. Donc, les animaux, par exemple comme les vers, qui sont sans sexe, si j'ai bien compris, peuvent aussi faire du sexe alors.
Eh oui, les annélides par exemple, qui se reproduisent souvent par sissiparité, sont pourtant des animaux sexués. Ils sont parfaitement capables de produire des formes sexuelles qu'on appelle épitoque ou atèque. Hein, tous les étudiants de première année de biologie ont entendu parler de ces formes épitoque, etc. Et ce sont les formes sexuées de ces animaux. Et donc, évidemment, ça veut bien dire qu'ils en font. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on attache une grande, grande confusion à cette question du sexe. À quoi ça peut être le sexe? Qu'est-ce que ça peut être le sexe? Et qu'est-ce que ça veut dire la sexualité? La non-sexualité, la sexualité en un seul mot. Eh bien, cette non-sexualité, c'est évidemment quelque chose de très, très, très surprenant. C'est le fait de présenter normalement une absence de ces trois caractéristiques essentielles, on l'a dit, la syngamie, la fusion des noyaux, la méiose réductionnelle, la division en deux du génome, et puis bien entendu, l'élément important, la recombinaison sexuelle qui est possible par le rapprochement des individus. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. En fait, la plupart des animaux qui sont considérés comme asexués présentent parfois de la sexualité dans leur apparentement. Il y a par exemple des individus qui vont être des espèces qui vont pas présenter l'une des caractéristiques du sexe, mais qui en présenteront une autre. La définition de la non-sexualité est en fait basée en général sur des existences négatives. On dit par exemple, s'il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de sexe. Oui, mais attention, les femelles, ce sont quand même bien des animaux sexués. Alors certes, la reproduction ne sera pas sexuée, mais le sexe existe. D'autres définitions du même genre vont exister. On va dire s'il n'y a pas de recombinaison, c'est qu'il n'y a pas de sexe. Mais là encore, ce n'est qu'une partie de l'élément présent. Par exemple, chez les abeilles, eh bien, les mâles vont être produits sans recombinaison. Ça ne signifie pas que l'espèce n'a pas de sexe. On s'aperçoit que cette définition est d'une confusion incroyable et que le plus souvent, ce sont des lignées de femelles qui sont souvent utilisées pour dire qu'elles n'ont pas de sexe. Or, c'est très grave, parce qu'en fait, le plus souvent, ces lignées d'espèces, soit parthénogénétiques, le plus souvent, c'est des espèces parthénogénétiques qui sont étudiées, soit de temps en temps des espèces qui vont présenter des alternances de sexualité, sont en général utilisées pour comparer l'avantage du sexe. C'est-à-dire qu'on essaie de comparer des animaux qui pratiquent du sexe et qui ont une reproduction sexuée dite normale, en quelque sorte, et les animaux qui ne feraient pas de sexe, mais qui peuvent être des femelles parthénogénétiques ou qu'ils peuvent faire du sexe de temps en temps. En règle générale, on a comparé les abeilles, les rotifères, les lézards, beaucoup d'espèces de poissons ou de lézards ont été comparées pour des formes asexuées et pour des formes sexuées. Or, je le répète, même chez des lézards qui ne font pas de sexe, ce sont souvent des femelles, ce sont même toujours des femelles parthénogénétiques. Or, quand on est femelle, corps ne guidouille, cela signifie qu'on a un sexe génétique, un sexe morphologique, un sexe anatomique et souvent un sexe hormonal. Donc, quelque chose est en train de nous montrer que ces fameux lignées asexuelles, qui sont pourtant formées souvent de femelles, sont des lignées qui peuvent nous faire comprendre quelque chose d'autre. Évidemment, nous tombons toujours sur ce fameux problème de l'adaptation. Car si ces espèces présentent une absence de reproduction sexuée, mais gardent quand même leur propre sexe, on peut peut-être penser que quelque chose s'est passé qui a conduit non pas ces espèces à être originellement sans sexe, mais à devenir secondairement sans sexe. C'est-à-dire qu'elles pourraient très bien avoir perdu du sexe. Alors voilà maintenant que toutes les études qui ont été menées pour comparer, pour essayer d'étudier l'avantage du sexe, sont en fait des études qui ont comparé des animaux qui ont du sexe à des qui en ont perdu. Peut-être même à des animaux qui ont leur sexe altéré. Altéré par quoi ? Eh bien, altéré précisément par quelque chose de d'assez grave, dont nous avons déjà évoqué l'existence dans l'évolution, par le fameux conflit sexuel. C'est-à-dire qu'une partie de ces espèces asexuées sont en fait la résultante d'espèces sexuées qui ont été altérées pour le sexe. Il est évidemment intéressant d'étudier la chose comme ça, parce qu'on comprend bien du coup que quelque chose est en train de se passer qui nous interdit de croire qu'on pourrait étudier l'avantage du sexe en comparant des asexués et des sexués, puisque ces fameux asexués ne sont pas aussi asexués qu'on veut bien nous le faire croire. C'était Hillbilly Explosion by Beggar Steel. C'est bien ça. Bon, et donc nous en sommes toujours dans notre émission Science en Liberté à la recherche de ce qui expliquerait que des espèces animales se reproduisent sans le sexe. Pas de sexe. Il ne s'agit pas ici d'une imprécation religieuse, mais d'une réalité biologique absolument étonnante. Des espèces peuvent se reproduire sans sexe. Et là, en plus, on a parlé carrément d'espèces supérieures chez les animaux. Où nous en sommes même aux lézards. Voilà. Mais pour comprendre, en fait, pour mieux comprendre pourquoi des organismes non sexués sont capables de survivre comme ça, il va falloir évidemment qu'on sache un petit peu quelle est l'histoire évolutive de cette non-sexualité. Alors c'est souvent assez utile de distinguer, enfin de faire la différence entre les forces évolutives qui ont favorisé l'origine d'un mécanisme, et puis les forces évolutives qui vont en quelque sorte favoriser son maintien. Souvent, on mélange un peu les deux, et c'est probablement parce que le mélange des deux a été fait qu'on a voulu comparer les individus parthénogénétiques considérés comme asexués avec des espèces sexuées pour essayer de voir quels étaient les avantages du sexe. Ce qu'il faut bien essayer de sentir, en effet, c'est qu'on suppose à chaque fois que le sexe, le cycle sexuel, serait un élément supérieur et l'autre, le sexe asexué, serait un élément primitif. Or, il n'en est rien. Beaucoup des espèces actuellement asexuées ont en fait des origines sexuées. Et c'est là qu'on va définir la clé de notre problème. Car si leurs ancêtres sont sexués, ce qui est le cas par exemple pour tous les vers, hein, on a parlé des vers tout à l'heure, qui étaient les fameux vers polyquettes, hein, les vers marins, qui sont capables de se reproduire par scissiparité en se coupant en petits morceaux, eh bien les études ont montré qu'ils avaient des ancêtres sexués. Il y a en fait une continuité totale entre les espèces sexuées et les espèces asexuées. Et certaines vers sont devenues asexuées, tandis que d'autres espèces ont continué à garder leur reproduction sexuelle. On voit donc ici que quelque chose s'est passé, mais qui s'est passé après l'origine de ces espèces-là. Il ne s'agit pas du tout d'un mécanisme archaïque. Ne pas avoir de sexe n'est pas un mécanisme archaïque. C'est un mécanisme évolutif assez récent chez beaucoup d'espèces, et du coup, on comprend mieux pourquoi des espèces comme des lézards ou comme des poissons, qui sont malgré tout des espèces supérieures à l'échelle de l'évolution, peuvent, elles aussi, présenter une absence de reproduction sexuée. Alors, en se basant évidemment sur l'idée que c'était des eucaryotes primitifs, comme les tout premiers organismes qui auraient connu la non-sexualité, on se trompait. En fait, chez les organismes les plus primitifs, on a très 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 souvent existence en fait d'individus qui sont sexués. Par exemple, si on prend des espèces comme les protistes, eh bien on se rend compte qu'il y a la capacité chez les paramécies de faire du sexe, alors que on est incapable de distinguer un mâle et une femelle. Vous avez bien entendu. Voilà des espèces qui font du sexe alors qu'il n'y a ni mâle ni femelle. Et nous avons tout de suite évoqué des animaux qui avaient des femelles et qui, elles, voire même des mâles, et qui, elles, ne pratiquent pas le sexe. La reproduction sexuée n'est pas du tout la même chose que la sexualité des genres. Voilà, là, une autre information qui, évidemment, est importante pour bien comprendre toute l'évolution de ce mécanisme. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la sexualité, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons, à la base, le génome d'un mâle, qui va se recombiner avec le génome d'une femelle. Cette recombinaison génétique conduit évidemment à quelque chose d'assez étrange. Cette étrangeté, c'est une espèce d'hétérogénome, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gènes qui vont être différents provenant du mâle et de la femelle. Et cet hétérogénome va construire un conflit génomique, un conflit d'acceptation des gènes. C'est ce conflit qui va évidemment tout construire. Chez la plupart des espèces, les individus sont suffisamment proches, suffisamment peu différents, pour que le génome du mâle et le génome de la femelle puissent s'entendre pour former un individu cohérent. Mais si l'on prend le cas d'individus qui sont hybrides, c'est-à-dire d'espèces qui vont se reproduire avec des individus assez différents d'eux-mêmes, eh bien le génome sera encore plus différent. Et évidemment, du coup, la recombinaison génétique va déclencher des conflits génomiques, des conflits d'importance. Eh bien, figurez-vous que la plupart du temps, chez la plupart des espèces qui sont justement asexuées, c'est-à-dire qui pratiquent la parthénogenèse ou qui pratiquent d'autres formes de type de non-sexualité, on a fondamentalement des espèces qui sont hybrides, c'est-à-dire des individus, des espèces, des lignées entières qui vont être issues du rapprochement de deux espèces sexuées ou de parenté sexuée, mais qui vont perdre cette particularité de la reproduction sexuée. Nous sommes donc ici, évidemment, dans un conflit génomique, et ce conflit nous livre l'idée que les individus asexués sont la résultante d'un mauvais mécanisme qui a fonctionné. Évidemment, du coup, un autre mauvais mécanisme va fonctionner qui va altérer leur méiose, c'est-à-dire leur division des allèles, qui va altérer la recombinaison et qui va même altérer la formation d'individus nouveaux.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux-culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. We'll be right back.
Vous avez reconnu Hexagone de Renaud. Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiquets du bulbe, science en liberté. Nous voilà donc arrivés à un stade crucial pour bien comprendre pourquoi certaines espèces ne vont pas produire de sexe. En fait, se reproduire sans sexe signifie effectivement qu'ils ont perdu cette compétence. Ça veut dire que la plupart d'entre eux sont des espèces, la plupart d'entre elles sont des espèces qui ont connu ce fameux conflit de génome, ce conflit qui leur interdit de réussir à faire une reproduction normale. A priori, on voit donc que la non-sexualité est la résultante de ce conflit et qu'il est donc idiot de comparer des espèces qui pratiqueraient du sexe et des espèces qui n'en pratiqueraient pas pour voir quels sont les avantages du sexe. On compare en fait, quand on fait cela, des espèces normales qui pratiquent du sexe et de la reproduction sexuée avec des espèces dont la reproduction sexuée a été altérée, ces fameuses espèces parthénogénétiques. Si on voulait vraiment comparer, il faudrait prouver les espèces qui n'ont jamais eu de sexe, comme par exemple les bactéries, et on comparerait les avantages qu'ont les bactéries aux avantages qu'ont les individus sexués. Et on se rend compte que les bactéries, finalement, sont aussi parfaitement capables de s'adapter et de survivre depuis des générations, et même de continuer à produire des pathogènes qui ne sont pas tellement des choses que nous aimons bien. Par conséquent, maladies, etc. Par conséquent, quelque chose ne va pas. Mais en même temps, ces fameuses espèces asexuées, qui pourtant résultent d'un conflit de génome, sont quand même capables de s'adapter à leur environnement. Et c'est sans doute ça, la grande leçon qu'on va pouvoir retenir quand même. D'abord, si le mécanisme qui leur permet de se reproduire sans sexe est un mécanisme assez compliqué, en fait, on voit qu'ils sont capables de développer une embryogenèse sans qu'il y ait l'intervention de l'autre sexe, ça veut dire qu'il y a cette compétence à développer de l'embryogenèse, à faire des bébés en quelque sorte, rien qu'à partir d'un ovule, et qu'il n'y a pas besoin pour cela nécessairement de la fécondation par le spermatozoïde. S'ils sont capables de le faire, c'est aussi parce que finalement, la reproduction sexuée va être abandonnée, car il y a un certain avantage ponctuel à réussir à être présent. Alors il y a plusieurs théories pour comprendre cet avantage. D'abord, je vous rappelle, on a dit que c'était des individus qui étaient issus le plus souvent, d'espèces d'hybridation, d'événements hybrides. Ça veut donc dire qu'il y avait une espèce A qui a copulé avec une espèce B et que l'individu AB qui en est sorti va connaître ce conflit génomique qui va lui faire perdre le sexe et qui va faire petit à petit une altération totale de la reproduction. Souvent, ce sont les mâles dans ces cas-là qui disparaissent. Pourquoi les mâles ? Eh bien, parce que la plupart du temps, les mâles possèdent des hétérochromosomes. Les mâles, ce sont des XY, par exemple, alors que les femelles sont des XX. Et du coup, ils sont beaucoup plus fragilisés, déjà, dans le conflit de génome. C'est donc pourquoi ils risquent davantage de disparaître. Et puis, il y a une autre raison, c'est que les femelles ne reconnaissent pas ces mâles comme étant des mâles fécondants potentiels. Et donc, elles vont les ignorer et vont retrouver leur propre capacité à se reproduire tout seul. Alors, je vous en prie, messieurs, faites-en une leçon. Apprenez donc que si vous n'êtes pas gentil avec les dames, elles pourraient fort bien un jour se passer de vous. Bon. Revenons sur les espèces traditionnellement reconnues comme espèces asexuées, ces fameuses hybrides. Première hypothèse de l'avantage d'être hybride, eh bien, on cumule les avantages de l'espèce A et les avantages de l'espèce B, et on va avoir une espèce de mélange qui va nous permettre d'habiter dans un coin que finalement les espèces occupaient mal. Alors ça a été testé, ça c'est l'hypothèse d'une niche moyenne en quelque sorte, mais cette hypothèse d'une niche moyenne générale, le General Purpose Genotype, ne fonctionne pas très bien. On s'aperçoit que la plupart des espèces asexuées n'occupent pas vraiment des niches intermédiaires ou des niches mélangées. Bien au contraire, elles ne sont adaptées ni dans un cas ni dans l'autre. En fait, les espèces qui présentent un génome A plus un génome B ne vont être avantagées ni dans les milieux A ni dans les milieux B. Donc il a fallu élaborer d'autres nouvelles théories pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'est plutôt la théorie dite de la niche gelée qui va permettre, de la variation des niches gelées, qui va permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. On s'aperçoit, en regardant ces espèces asexuées, qu'elles sont au contraire capables d'habiter dans des environnements que les autres espèces parentales n'exploitent pas. L'individu A habitant l'espèce A va habiter l'habitat A, l'espèce B va habiter l'habitat B, il va en résulter un hybride AB asexué qui va lui utiliser un espace C. Un espace qui n'existait pas, on appelle ça une niche gelée, une niche qui n'était pas présente ou qui n'était pas apparemment présente. En fait, tout ça, c'est tout à fait évidemment étrange et extraordinaire dans la mesure où on ne pouvait évidemment pas imaginer que les espèces asexuées aurait cette capacité d'adaptation et d'installation dans des endroits nouveaux. Et c'est pourtant ce qui se passe à cause de leur génome particulier, à cause de leurs habitudes particulières de vie, de leur histoire de vie, elles vont petit à petit s'implanter dans des zones que les autres espèces n'exploitent pas. Un autre enseignement va être tiré de ça, c'est que finalement, toutes les niches écologiques ne sont pas si saturées que ça. Il y a finalement beaucoup plus de niches écologiques disponibles que ce que l'on pourrait croire. Et c'est aussi ce que nous annoncent ces espèces asexuées. Bref, grâce à l'étude de ces espèces asexuées, on découvre de plus en plus d'éléments qui en quelque sorte modifient toute la pensée évolutive qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, modifient totalement le fonctionnement habituel de la théorie évolutive. Non, ce ne sont pas des éléments archaïques. Oui, il y a bien des conflits, même quand on se reproduit ensemble. Ces conflits de génome, oui, peuvent altérer la sexualité. La reproduction n'est pas nécessairement sexuelle. Il y a une grosse différence entre la sexualité et la reproduction. Et en outre, évidemment, ce n'est pas parce qu'on va présenter un autre type d'adaptation qu'on ne sera pas capable d'habiter dans des habitats qui, théoriquement, n'existent pas. Ces fameuses niches libres, ça n'existe pas puisque toute l'évolution est basée sur l'idée qu'il y a une saturation des habitats et une concurrence des individus entre eux. Là, on s'aperçoit que non, les individus peuvent aussi tout simplement aller ailleurs.
Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Sir questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, se il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti apriamo la finestra, quattro piani son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
Un superbe chant sur la fédération, la radio de la fédération anarchiste, Canti Anarchici, la Ballata del Pinelli. Bon, un chant anarchique, c'est plus facile. Hein, là.
Oui, donc, c'est plus facile en français, je te l'accorde, Fiona.
Donc, en fait, nous allons revenir là au sujet principal. Si je résume, en fait, on dit finalement les bactéries sont des espèces qui sont les plus sans le sexe, en fait. Qui sont,
ce sont
complètement
les,
sans le sexe.
Ce
on
sont
est
même
d'accord.
Les seules sans le sexe. C'est-à-dire voilà. Que les espèces dites asexuées sont en général des espèces issues ont des ancêtres sexués issus d'espèces sexuées, de lignées sexuées, ou alors ces fameux individus qu'on dit asexués, ce sont des femelles. D'accord. Donc tout ça, ce sont des espèces qui ont en quelque sorte refusé le sexe au cours de l'histoire de vie et de leur évolution. Au contraire, chez les bactéries, là, on a affaire à des vraies lignées qui sont totalement asexuées, puisqu'elles n'ont jamais connu le sexe. Jamais, même un début de recombinaison. Ces espèces qui ne connaissent pas la recombinaison, enfin, il y a quelques cas qui ressemblent un peu à la recombinaison, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ces espèces qui n'ont jamais connu donc, le sexe sont bien différentes. Alors, il ne s'agit pas d'être plus primitif. Il s'agit simplement de penser que ces bactéries ont pris un chemin évolutif différent. Ce sont des histoires de vie différentes entre celles des bactéries et celles des autres espèces que sont les eucaryotes. Cette grosse bifurcation n'est pas liée simplement au sexe. Au contraire, même les espèces qui vont... Enfin, les eucaryotes ne font que du sexe, ne pensent qu'à faire du sexe. Et ceux qui ont perdu le sexe sont considérés comme asexués. Mais dans la réalité, évidemment, cette petite différence-là n'est pas un avantage reproducteur. Au contraire, ça diminue même les possibilités de reproduction. Chez les bactéries, la reproduction est facilitée puisqu'il n'y a pas cela, mais il y a d'autres désavantages. Bref, on voit bien ici qu'il s'agit d'une histoire de vie, comme dirait Lamarck. On a affaire à des espèces qui présentent ça dans une histoire et non pas dans un dispositif qui serait comme une espèce de force de la nature. Ces différentes histoires de vie permettent de constituer des espèces différentes. Et évidemment, ce qui est en cause dans la reproduction asexuée des espèces qui ont perdu le sexe, c'est leur conflit de génome. Mais il n'y a pas que le conflit de génome, car le conflit de génome est aussi étroitement associé à une autre problématique évolutive fascinante, qui est le conflit sexuel. Car la vraie question qui se pose, c'est pourquoi les espèces animales qui ont deux sexes différents, cette invention qui a été faite à un moment donné, leur a permis théoriquement de réussir la recombinaison, mais en fabriquant ces deux sexes différents, l'évolution a fabriqué en même temps des intérêts très différenciés. Le mâle n'a pas le même intérêt à se reproduire que la femelle. Le mâle peut multiplier les partenaires sexuels, y compris en allant les chercher chez les hybrides, et il aura plus de descendants, donc il laissera plus de gènes à lui. La femelle, au contraire, ne peut pas multiplier le nombre de ses descendants en augmentant le nombre de ses partenaires sexuels. La femelle aura toujours le même nombre de partenaires sexuels. Il en résulte un conflit entre les mâles et les femelles, conflit qui parfois va les entraîner à des mécanismes d'hybridation, car les espèces ne sont pas autant séparées les unes qu'on croit. Et c'est chez les espèces dans lesquelles le conflit sexuel est souvent le plus fort que les mécanismes d'hybridation sont les plus importants. Enfin, du moins, c'est ce qui a été pour l'instant, c'est à peu près le stade où on en est. Et ces mécanismes d'hybridation sont à leur tour ceux qui vont engendrer des complications de reproduction, qui vont engendrer des difficultés à fabriquer des cellules sexuelles, à faire de la méiose, à faire de la recombinaison, à faire de la syngamie. Et donc, comme ces éléments-là vont être altérés, évidemment, la reproduction sera altérée et on aura affaire à des individus qui vont tenter, qui vont continuer à se reproduire autrement. Ou plus exactement, les individus asexués, les lignées asexuées qu'on voit, sont celles qui ont survécu. Celles qui n'étaient incapables de se reproduire ont disparu. Celles qui ont survécu parce qu'elles ont trouvé ces méthodes de reproduction, parthénogenèse ou encore évidemment capacité à faire de la scissiparité, à se casser en petits bouts, eh bien celles-là sont évidemment résistantes, ont survécu jusqu'à maintenant. On voit donc à quel point quelque chose dynamise l'évolution des espèces, et ce quelque chose, c'est le conflit des sexes, conflit qui est obligé de se résoudre, d'une manière ou d'une autre, pour que les espèces survivent. On est très loin.
Se reproduisent finalement.
On est très loin d'un mécanisme où les individus sont concurrents les uns des autres, où ils réussissent ou non à être les meilleurs ou pas les meilleurs. On est bien au contraire dans un processus où la dynamique est assurée parce qu'on n'est pas d'accord, parce que l'intérêt n'est pas le même entre les individus, notamment entre les mâles et les femelles. Et ce processus dynamique-là va être obligé de se résoudre. Chez les survivants actuels, eh bien, ça s'est en quelque sorte en partie résolu. Soit bien, soit plutôt mal, ça dépend des espèces. Hein. Chez la menthe religieuse, le conflit sexuel, ça finit plutôt mal pour les mâles. Chez d'autres espèces, ça pourrait finir mal aussi. On ne sait pas trop comment les choses peuvent se faire. Et chez beaucoup d'espèces asexuées comme les lézards, eh bien, on a en effet la disparition des mâles, les femelles étant capables de se reproduire sans l'intervention de mâles. On est donc ici dans un processus qui évidemment inclut le conflit sexuel comme l'un des fondements du mécanisme évolutif. Alors vous allez vous dire, ben, c'est un peu mon dada à moi, Thierry Laudet, de ne pas arrêter de parler de cette dynamique particulière qu'est le conflit sexuel. Ce n'est pas tout à fait faux, mais je pense que le conflit des individus, non pas en tant que concurrent, mais en tant que divergence d'intérêts, nous entraîne en effet à comprendre l'évolution d'une manière totalement différente. Parce qu'effectivement, on n'est pas d'accord. Le conflit sexuel, c'est bien qu'il va, que ça peut avancer vers un conflit de génome, ça peut avancer vers tout un ensemble de choses. Et en effet, les intérêts sont divergents, mais vous le voyez, les intérêts sont divergents parce qu'on est obligé d'être ensemble. Parce qu'on est obligé, quand on est un mâle, de trouver une femelle, et quand on est une femelle, de trouver un mâle. Les espèces peuvent résoudre ce conflit de cette manière cruciale qu'est la sexualité, en disant, bah, puisque c'est comme ça, on ne vivra plus jamais ensemble, mâle et femelle ensemble. Et évidemment, cette accroche-là n'est pas gagnante à tous les coups, parce que si ces espèces peuvent s'adapter grâce à la niche gelée dont on a parlé dans la partie de tout à l'heure, elles peuvent aussi ne connaître aucune adaptation. C'est devenu parfois très difficile de réussir son adaptation quand la reproduction est simplement clonale. On peut avoir plus de maladies, on peut avoir plus de problèmes. N'oubliez pas que le conflit qui est entraîné par ce mécanisme-là peut réduire la reproduction. Bref, se passer de partenaire n'est pas qu'un avantage. Donc vous le voyez, toute cette dynamique évolutive est évidemment l'élément essentiel qui va nous permettre de comprendre comment on peut danser sur les vagues. C'était La Danseuse par Lojo, un groupe angevin. Il va falloir que nous commencions à conclure déjà, car on s'aperçoit en effet que nous arrivons à l'issue de cette émission paradoxale, où finalement, en analysant des espèces qui vivent seules, qui pratiquent la non-sexualité et qui se retrouvent des individus isolés, des lignées isolées, eh bien on découvre l'importance d'avoir des relations, l'importance de se parler, l'importance d'être ensemble. En conclusion de tout ça, le sexe n'est donc pas du tout un outil indispensable. C'est au contraire un outil très ancien, très 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 ancien, très archaïque. Et troisième point, il peut même être perdu au cours des avantages ou des désavantages. En cherchant finalement les bénéfices de la sexualité, on a davantage cherché à comparer des espèces qui présentaient une altération avec des espèces qui présentaient pas d'altération de leur sexualité. Et donc on n'a pas étudié l'avantage du sexe. On s'est trompé. L'hybridation est en fait le fondement même de la non-sexualité, de la sexualité. Puisque la reproduction asexuée est censée être délétère sur le long terme, la survie des animaux asexués pose pourtant un véritable problème évolutif. La plupart des études qui portaient sur ces lignées asexuées ont étudié l'évolution de leurs inconvénients potentiels en s'appuyant essentiellement sur l'idée de l'accumulation de mauvaises mutations qui auraient dû raccourcir leur durée de vie. Cependant, quand on examine l'histoire de vie de ces lignées asexuées, ça nous révèle que des processus évolutifs n'agissent pas du tout comme cela, mais bien plus par des petites étapes transitoires dans lesquelles même de tout petits avantages temporaires, voire des éléments neutres, peuvent être suffisants pour contrer les inconvénients qui sont attendus par la sélection naturelle. Ici, je souligne donc que bien que des eucaryotes asexués sont supposés être pénalisés par toutes ces incompatibilités génétiques, ils peuvent pourtant trouver des avantages évolutifs comme des adaptations locales, comme la niche gelée dont on a parlé. Et si ces événements hybrides entraînent une perte de sexe, probablement causée par le conflit des génomes, les individus asexués qui en résultent ont de nouveaux caractères et ils sont capables d'une colonisation rapide de nouveaux environnements. Seulement, ils ont perdu quelque chose d'essentiel. Même s'ils sont capables de se survivre sur un long terme, il est quand même probable que l'asexualité va évoluer en réduisant tellement le conflit au sein des organismes que ces individus vont se retrouver seuls. Or, le sexe, c'est quoi ? Le sexe, c'est l'obligation d'être à plusieurs. L'évolution a inventé l'obligation d'aimer, l'obligation d'avoir des relations, et non pas le capitalisme ou la concurrence. Le capitalisme ou la concurrence, qui nous se présentent comme généralement des fondamentaux, comme étant proches de la nature humaine, n'ont rien à voir avec le contraire de ce qu'est l'évolution, puisque c'est vraiment l'idée d'avoir des relations avec les autres, de se comprendre, et surtout de résoudre les conflits autrement qu'en se tapant dessus. Du coup, si on réfléchit à tout ça, on s'aperçoit que le sexe n'est pas un avantage, mais qu'il résulte d'une longue série évolutive, de petites modifications qui n'ont pas amélioré la reproduction. Bien au contraire, elles l'ont même terriblement perturbée, puisqu'elles nous obligent à vivre avec les autres. Mais c'est dire tout ça, que le sexe est vraiment autre chose, que le sexe est vraiment une autre histoire, et c'est une autre histoire dont nous pourrons reparler bientôt. Alors, auditeurs, auditrice intrépide, vous pouvez toujours nous contacter en téléphonant au studio ou en écrivant sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous avons maintenant aussi une page web qui est accueillie sur le site de Trou Noir, où vous pouvez retrouver nos émissions, les télécharger et probablement tout un ensemble de commentaires. Enfin, bien entendu, nous avons toujours ce grand plaisir de se retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à partir de 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour continuer à décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui la parcourent et qui s'imposent petit à petit à nous en pensant qu'il s'agit d'éléments naturels. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté qui a été animée par Thierry Laudet avec la complicité de Siona et de Monique à Paris, dont le travail est conséquent puisque je me plante souvent dans beaucoup d'éléments et d'activités ici. La musique d'introduction est toujours de Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Nos Passaranes par les cadavres. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.
À bientôt.
un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Le temps d'une élégie, prête-moi la magie de ces rimes sonores dont tes écrits sonorent. Le temps d'une harmonie, prête-moi tes manies, ton amour de l'arpège, du solfège. Prête-moi ta muse, et si ça t'amuse, fais vibrer tes cordes pour que je m'accorde. Prête-moi ta muse, il faut que j'en use, le temps d'une aubade à ceux qui te bradent. Le temps de quelques lignes pour dire à ces indignes qui donnent du Brassens à tout ce qu'ils encensent, que la mort t'a fait signe de loger dans ces vignes, d'ensevelir à cette ta recette. Prête-moi ta muse, bien sûr ça t'amuse, d'ailleurs si je pige, elle est calipige. Prête-moi ta muse, il faut que j'en use, pour donner des gifles à ceux qui persiflent. Ainsi parlait au maître, sans même le connaître, un fou chantant des îles, sortant de son asile. Là peut-être d'entendre, ça et là tu es tendre, mais on devine en toi, le sais-toi. Prête-moi ta muse, je sais ça t'amuse, mais celles des îles ne sont pas dociles. Prête-moi ta muse, il faut que j'en use, bref qu'elle me forge un talent de Georges. La mort est ainsi faite, c'est l'ultime défaite de la marche en avant du commun des vivants. Et la moindre dépouille, les urubus la fouillent d'un bec infatigable, implacable. Cache-nous ta muse, qu'elle ne s'amuse aux rimes métisses, aux petits factices. Cache-nous ta muse, que nul n'en abuse, ne rêve ou ne pige, qu'elle est calipige.